Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 0892 68 80 30 pour la France et le 00 331 56 2 x 44-45 pour tous les autres pays. Notre invité ce soir est Philippe Osnay, pasteur, auteur, ancien aumônier de prison. Il est aussi directeur de l'association Osez en parler. Pasteur Philippe Osnay, bonsoir.
Bonsoir Chantal.
Alors, quelques-uns de vos ouvrages parmi ceux dont les thèmes peuvent compléter ce dont nous allons parler ce soir, le dernier en date, Espérer contre toute espérance.
Oui.
Il y a aussi surmonter l'épreuve, hein, puisque c'est ce qu'on va parler d'épreuve comme ce soir. Ta souffrance peut devenir féconde. Et puis, si tu traverses le désert, qui est en lien direct avec le thème de ce soir, avec Dieu, ton désert refleurit. C'est le thème. Alors, pasteur Philippe Osnay, c'est vrai que le désert s'installe parfois dans nos vies et nous atteint, dans toutes les dimensions de notre être. Alors, comment allons-nous réagir? Quel choix allons-nous faire dans une situation bloquée ou qui tend à nous enfermer? Comment peut-on réagir? Il y a différentes façons de réagir.
Oui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons désiré choisir ce thème ce soir. C'est vrai, beaucoup de personnes à l'heure actuelle traversent un désert. Je dirais même que nos pays civilisé traverse une crise économique très importante qui va toucher beaucoup de monde, qui va toucher les entreprises, qui va toucher les gouvernements, qui va être redoutable à beaucoup de points de vue. Le chômage va augmenter, il a commencé à augmenter, et le désespoir malheureusement également. Alors, des pays peuvent traverser un désert, mais des êtres humains également. Et le thème de cette émission va nous rejoindre dans cela. Nous allons dire comment évoluer lorsqu'un désert s'installe, comment réagir, parce qu'il y a bien sûr des choses à faire et à ne pas faire lorsqu'un désert s'installe. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'un désert ne survient pas toujours dans nos vies à cause de notre faute. Et souvent, lorsque l'épreuve prend de la place dans nos vies, s'installe, nous nous culpabilisons, nous nous posons des questions. Mais comment se fait-il que j'en suis arrivé là? Ce n'est pas toujours la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de s'ouvrir, j'allais dire de se laisser faire au début pour ne pas rentrer dans la culpabilité et l'introspection. Et puis, en gardant cette sérénité, de commencer à réfléchir dans le calme. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, comment est-ce que je peux faire?
Alors, ne pas réagir en culpabilisant au départ. Parce que ça, c'est une fermeture.
Bien sûr, la culpabilité va nous ronger, va s'accompagner de pulsions de mort, de dépression. Et nous ne pourrons pas faire un bon discernement des choses. Donc ça, c'est nécessaire d'accueillir le désert. Quand un désert s'installe, on ne peut pas reculer. C'est trop tard. Oui. Il faut avancer. Et stationner dans un désert, on le sait bien, c'est s'exposer à une mort imminente. Bien le sûr. Soleil va nous déshydrater, dessécher, et puis on va mourir. Donc dans le désert, ce qu'il faut faire, c'est avancer, même si on est fortement ralenti, puisque la marche dans le désert nous ralentit. Il y a des déserts froids et des déserts chauds, mais aussi bien dans les déserts froids, on marche à un rythme qu'on considère peut-être comme étant 20% du rythme normal seulement. Donc le désert nous paralyse dans un premier temps et il faut absolument réagir pour justement survivre. Parce que tout est là. Tout est là. Donc, il ne faut pas combattre un désert, il faut s'adapter à lui. C'est bien différent. Si on le combat, on n'y arrivera jamais. Il y a devant nous, autour de nous, des tonnes de sable. Il y a un soleil qui nous dessèche, qui peut nous brûler la peau si nous ne faisons pas attention, qui nous déshydrate. Et puis surtout, il y a cette lumière insupportable qu'on n'arrive pas à supporter, oui, parce qu'elle est trop forte. Et alors, il y a donc les animaux, les plantes, la végétation, donc, ainsi que les habitants du désert ont dû, pour mieux lutter, s'adapter à ce désert.
Donc adaptation. Pas lutte.
Pas lutte dans le sens d'un combat où on voudrait vaincre le désert. On ne peut pas vaincre le désert. On est obligé, j'allais dire, de copiner avec, d'en faire un ami. Et là, il faut un équilibre. Si on cherche à vaincre le désert, on va s'épuiser et on va tomber, on va mourir. Alors, en France, je crois que c'est environ 20 000 personnes qui, chaque année, paient très cher une agence de voyage pour
partir
au désert pendant quelques semaines. Il y en a toute une partie, et les voyagistes sont habitués à cela, toute une partie des gens, une minorité heureusement, arrivent dans le désert lors de ces voyages et au bout de 2-3 jours demandent un rapatriement d'urgence parce que cela leur est insupportable.
Ils n'ont pas pu s'adapter.
Non, ils se disent non, c'est trop dur pour moi. Alors évidemment, moi je pense à des personnes, par exemple, dont l'identité était le faire, l'agir, plutôt que l'être.
Et oui.
Comme au désert, on ne peut plus porter un titre, on ne peut plus avoir son téléphone portable, son fax, son ordinateur.
On est dépouillé de beaucoup de choses.
On est dépouillé d'absolument tout. Oui. On n'a pas de frigo, on n'a pas de congélateur, on n'a pas de voiture. Donc, comme au désert, on n'a plus rien. Eh bien, il y a un dépouillement qui se fait. Et l'être humain, un petit peu comme dans les prisons, lorsqu'une personne commence sa détention, elle n'a plus rien.
Eh bien oui.
Et c'est un désert d'arriver en prison et de demeurer en prison et de survivre en prison. C'est vraiment comparable à cette lutte que font certains lorsqu'ils sont dans le vrai désert, par exemple celui du Sahara en Afrique du Nord.
Donc on n'a pas toujours besoin de partir dans un vrai désert pour être dans un désert. Il y a des situations où on l'est.
Oui, de même qu'il y a des prisons intérieures, il n'y a pas besoin d'aller non plus en prison pour connaître la prison. Il y a des prisons intérieures à l'extérieur des prisons qui sont tout aussi virulentes et dangereuses.
Et je crois que tout le monde en fait une expérience à un moment donné.
Qu'on le veuille ou non, on ne le choisit pas. On ne choisit pas la prison, on choisit peut-être le délit qu'on va faire, mais on ne choisit pas la prison et on ne choisit pas un désert. Alors un désert, ça peut être un problème de santé très difficile à vivre, qui arrive soudainement, là, en un soir. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être un enfant qui naît handicapé.
C'est toutes sortes de...
Ça peut être un divorce qu'on traverse et qui nous mine, qui nous ronge, etc. etc. La liste est très longue.
En tout cas, ça déstabilise les situations qui déstabilisent, tout comme le désert.
Oui, comme le désert réel le fait. Alors, je le disais donc dans mes propos au début, il ne faut pas affronter le désert face à face en cherchant à le vaincre. Il y a une autre manière de le vaincre, c'est de s'adapter à lui et d'en faire un allié. Voilà.
Et finalement, c'est dans beaucoup d'épreuves, d'obstacles. Ça n'est pas en essayant de lutter, c'est bien souvent en essayant de s'adapter, de contourner.
C'est vrai que, par exemple, lorsqu'on travaille avec une personne qui a très mauvais caractère, si on lutte par
de
une
front.
Confrontation directe, on s'expose à de nombreux troubles. Il y a des difficultés beaucoup plus grandes encore. Alors, il y a une manière de faire avec une personne qui a un sale caractère, quelquefois de garder le silence, de ne pas répondre, ou avec douceur, de répondre en essayant d'utiliser la sagesse, hein, la patience, etc., etc. Peut-être il faudra même une explication avec ce chef de service. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec vous parce que vous ne me parlez pas toujours correctement. Bon, c'est un petit peu difficile à faire, ça. Il faut connaître la personne. Mais il y a un moment, peut-être, il faudra le dire. En tout cas, il faut éviter toute confrontation violente.
Bien sûr, ça, oui, ça n'apporte rien que de la violence.
Rien, non, non. Alors donc, le désert, c'est comme cela. Il faut, j'allais dire, il faut l'apprivoiser. J'aime bien les propos de Saint-Exupéry.
Ah ben oui.
Qui dit ceci dans le Petit Prince.
C'est ça.
Dont...
Vous l'avez mis en exergue.
Oui. On lit ceci. « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. » Voilà, Antoine de Saint-Exupéry.
Eh oui.
Quel homme profond.
Voilà, qui a fait cette expérience du désert à travers le...
Oui, il l'a fait, puisqu'il il pilotait des avions dont le but était d'amener le courrier.
Et, on ne connaît plus ça maintenant.
Comment
ce genre d'épopée.
Oui, ce genre d'épopée, non.
Ça a été vraiment à l'époque, à cette époque-là, les
bien sûr.
Courriers postaux, enfin l'aéropostale.
L'aéropostale, oui, c'est vrai.
Alors donc, oui, quand l'avion tombait en panne en plein désert.
Il fallait encore s'adapter à la panne et puis au désert.
Mais là, il a su tirer parti pour nous donner une parole
bien sûr,
à travers
qui,
ça.
Qui rayonne toujours à l'heure actuelle, des dizaines d'années après sa disparition.
Bien sûr.
Et j'aime beaucoup relire et relire le Petit Prince. C'est un livre de sagesse.
Alors c'est vrai que le désert, c'est un lieu où on est confronté à toutes sortes d'embûches.
Oui. Oui, oui. Alors, il y a donc, je le disais, le soleil, la chaleur et surtout le manque d'eau. Parce qu'il y a des coins retirés sur la terre où il y a beaucoup de chaleur, mais où il y a de l'eau. Mais le vrai désert,
il n'y a pas d'eau.
C'est une région, c'est un lieu où il ne pleut pas, ou si peu, hein, moins de 100 mm par an. C'est-à-dire presque rien. Il y a même des endroits où, depuis 30 ou 40 ans, ils n'ont jamais vu une seule pluie. Hein ? Et c'est terrible, là. Donc la caractéristique du désert, c'est non seulement la chaleur, mais surtout le manque d'eau. Alors, un certain manque d'eau, parce qu'il y a de l'eau dans le désert, mais elle est complètement cachée, elle est souterraine. Il y a des rivières souterraines dans le désert, avec même des poissons. Mais tout cela est enfoui.
Eh oui.
Et le désert, c'est pour moi, Chantal, le lieu de l'approfondissement. C'est un lieu où on va faire des forages. Dans sa personnalité, dans son identité, on est obligé de s'approfondir dans le désert. Parce qu'on n'a plus rien à l'extérieur.
Eh oui, dépouillé comme...
On est dépouillé. On se retrouve donc face à face avec son vide intérieur. Et ça fait mal. Ça fait mal. Alors, comment faire face au vide intérieur? Certains, je le disais, rebroussent chemin au bout de 2-3 jours et demandent leur rapatriement. D'autres
c'est trop dur.
Vont vouloir aller plus loin et en tirer une leçon pour leur vie. Et ils repartent transformés.
Donc, ils font un forage pour trouver plus profond de l'eau, la source intérieure.
C'est vrai. Alors, dans la Bible, on voit bien que Dieu souvent parlait à l'homme dans le désert. Les 10 commandements sur le mont Sinaï ont été donnés en plein désert. Et il y a plein d'autres exemples.
Et on voit le peuple hébreu dans le désert pendant 40 ans. Et il souffrait aussi de la soif. Il a fallu que Moïse intervienne et que le Seigneur lui dise de frapper ou de parler au rocher la deuxième fois.
Et ce désert a été voulu par Dieu. Je dirais même que Jésus, après son baptême, a été conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable.
Oui.
Donc le désert, c'est aussi le lieu de la tentation.
Oui. Épreuve, tentation, oui.
Tentation de fuir, tentation de se laisser aller et de mourir. On voit Élie, lorsque Jézabel donc, va vouloir lui faire la peau.
Oui, et bien il s'enfuit dans le désert, il veut mourir.
Il s'enfuit, il va faire 30 kilomètres, lui qui ne veut pas mourir.
Oui, puisqu'il fuit pour...
Parce qu'il a peur de cette femme. Eh bien, la première chose qu'il fait, il fait des efforts, il va marcher 30-40 kilomètres pour aller dans le désert. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il demande la mort. Lui qui fuit la mort, il demande la mort.
C'est paradoxal quand même, c'est curieux.
Paradoxal. Oui. On est quelquefois comme ça avec Dieu.
Eh oui.
Alors, donc le désert, c'est un lieu à la fois de bénédiction, mais c'est aussi un lieu de malédiction. Et on dit souvent que c'est le repère du diable et des démons. Hein, il est parlé dans la Bible des lieux arides,
où
habiteraient les démons. Hein. Alors, c'est un lieu où il y a une confrontation spirituelle fabuleuse. Et si nous passons par un désert, nous vivrons cette confrontation. C'est inévitable. Le désert, c'est une école. Et il nous faut changer de vision lorsque nous sommes dans le désert. Il nous faut changer notre vision de ce que c'est que le désert.
Donc s'adapter, la vue aussi doit s'adapter.
S'adapter. Mmh. Alors, si on devient pessimiste et on se dit « mais il n'y a rien à faire là-dedans, tout est aride, je manque de tout, je perds mon temps. »
On est dans un refus.
On est dans un refus. Ce n'est pas étonnant que le passage par le désert ne porte pas ses fruits.
Mmh.
J'allais dire, c'est manquer d'avance.
C'est sûr.
Si un homme politique se dit « je vais perdre aux élections », à quoi ça sert qu'il se présente? Il y croit au moins,
ben oui.
Au moins un petit peu.
Ben oui, autrement, ça ne vaudrait pas le coup de faire des efforts.
Hein. Donc le désert, ce n'est pas un choix, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il va s'installer, il va falloir l'accueillir, l'apprivoiser, survivre, s'adapter à lui, en faire un ami et changer de regard.
C'est tout un travail. Hein.
C'est tout un travail sur soi-même. C'est d'ailleurs le sens de ce désert lorsqu'il est permis par Dieu. C'est que nous changions.
Donc la transformation.
Transformation, l'évolution. C'est que nous changions de cap, de direction, de pôle d'intérêt. Et c'est vrai que lorsqu'on manque de tout, lorsqu'on est isolé, lorsqu'on vit la solitude, on réfléchit et on va à l'essentiel.
Un grand merci, pasteur Philippe Osney. Donc, avec Dieu, ton désert refleurit, c'est le thème ce soir. On écoute tout de suite, bien sûr, nos auditeurs sont invités à entrer aussi dans le dialogue, parce que je suis sûre que parmi nos auditeurs, rares sont ceux qui n'ont pas traversé des déserts.
Ah oui.
En tout cas, ils peuvent nous le dire, ceux qui n'ont pas traversé de déserts, et ceux qui en ont traversé aussi peuvent intervenir pour en témoigner, et surtout de la façon dont ils l'ont traversé. On écoute tout de suite, c'est un Gloria de Poulenc par l'Orchestre Symphonique de Boston.
Radio Notre-Dame. Pour entrer dans le dialogue, appelez le 0892 68 80 30 pour la France.
Voilà, et pour l'étranger, le 00 331 56 2 fois 44 45 avec le pasteur Philippe Osnay. Ce soir, eh bien, nous traversons le désert, justement, on le traverse avec Dieu. Ton désert refleurit, c'est le thème. C'est aussi, c'est à partir surtout de son livre, Si tu traverses le désert, hein, que nous réfléchissons ce soir. À...
Oui, et le livre n'est pas en librairie.
Non, c'est ça. Alors,
donc,
on peut...
pendant l'émission, on donnera un numéro où on peut se produire, où on peut se procurer, pardon, le livre qui fait 207 pages oui. et que j'ai écrit il y a quelques années et qui est toujours d'actualité, bien sûr, puisque le désert ne change pas chaque année. Donc, on peut se procurer le livre en laissant un message sur le répondeur
oui, au 06.
De ce numéro suivant, 06 79 42 52 96. Je répète, on le dira plusieurs fois pendant l'émission, 06 79 42 52 96 et on vous rappellera pour vous dire comment faire.
Voilà. Alors donc, Sœur Philippe Osnay, vous nous avez cité tout à l'heure cette belle parole de Saint-Exupéry sur le désert, mais il y en a d'autres dans votre livre. Alors, je vois celle de Théodore Monod, par exemple,
oui.
qui est bien connue, hein,
oui.
Géologue bien connu,
oui.
Qui a une longue vie malgré. Hein, le désert,
oui.
ça peut conserver.
Ah oui, il aimait beaucoup rester dans le désert. Oui. Il a beaucoup étudié ce qui se passe dans le désert. Et dans un livre qui s'intitule « Le chercheur d'absolu », Théodore Monod dit ceci. Il est décédé d'ailleurs il y a quelques années.
Oui, oui.
Le Sahara nous enseigne à ne pas gémir, à ne pas parler inutilement. Le désert nous ponce l'âme, nous apprend une certaine lenteur intérieure. Le désert, c'est aussi l'apprentissage de la soustraction. 2,5 litres d'eau par personne et par jour. Une nourriture frugale, quelques livres, peu de paroles. Nous sommes enfin débarrassés des futilités, des inutilités et des bavardages.
Ben voilà, une belle leçon de sagesse qu'enseigne le désert. Hein
oui, j'aime beaucoup ce terme de ponçage. Hein.
Oui.
Le désert nous ponce l'âme, c'est vraiment ça.
Mmh.
C'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'une épreuve qui surgit dans notre vie d'une manière inattendue et qui perdure produit le même effet.
Mais oui.
On en a marre, on baisse les bras. On reste sur son lit, les yeux hagards, on ne comprend plus rien.
Mmh.
Et c'est là qu'il faut avoir confiance. Il faut s'abandonner. S'abandonner ne veut pas dire...
se laisser aller.
Se laisser aller.
Mmh.
S'abandonner, c'est rentrer dans la confiance, dans l'espérance.
Mmh.
Voilà. On se dit, voilà, c'est pas pour rien. Parce que c'est vrai que rien de ce qui nous arrive n'est un hasard.
Bien sûr.
La providence existe bien.
Mmh.
Alors là encore, c'est important de changer de regard.
Oui.
Soit on se dit « je suis une victime, je le resterai toute ma vie, c'est injuste ». Alors, soit on va rester sur cette position qu'on peut tous avoir au départ. Parce
que
c'est vrai qu'une épreuve peut être injuste,
au départ,
une traversée du désert peut être injuste. Alors, soit on va rester sur cette prise de position, soit on va évoluer. On va se radoucir et on va se laisser poncer par le désert. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le désert? Le grain de sable, qu'est-ce que c'est?
C'est
le fruit de
des pierres qui
se sont érodées et ça a donné du sable, des petits grains de granit.
Alors même la constitution du désert, le sable, montre que... il y a une fluidité qu'il faut obtenir, comme le sable qui est entre les doigts,
ça.
Glisse et fluide.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment l'image du travail qu'on doit réaliser en nous-mêmes lorsqu'on traverse le désert. Finalement, il faut devenir comme ces petits grains de sable qui s'adaptent parce que le vent les soulève, mais ils ne se détruisent jamais. Et je dirais même qu'ils voyagent, ces grains de sable. Ils font quelquefois des milliers de kilomètres. Et
avec le vent
Ce sont des centaines de tonnes qui survolent la Méditerranée et arrivent dans le sud et même dans le nord de la France. Chaque année, qui n'a pas fait cette expérience d'aller vers sa voiture après avoir bossé ses 8 heures, Puis se dire, mais qui c'est qui a sali ma voiture comme ça?
Et ben c'est le vent tout seul. Ça c'est...
Elle est toute couleur ocre ou rouge, couleur du sable. Et il y a vraiment du sable
qui est dessus.
Ce sont des particules qui se sont envolées. Il y a eu une tempête.
Tempête de sable.
Et des milliers de kilomètres ont été parcourus. Alors, il y a ainsi toute une partie du désert qui se déplace chaque année.
Ben voilà,
qui s'envole vers nous.
Il est mouvant comme les sables.
Donc, il n'est pas étonnant également qu'on puisse traverser aussi un désert spirituel ou un désert tout simplement que j'appellerais humain. Ça arrive à tout le monde.
En tout cas, c'est parlant le désert. Hein, c'est parlant et on en voit l'utilité quelque part quand on a fait tout un retournement.
Alors, c'est vrai.
Après, on peut dire bienheureux désert, mais...
Mais sur le moment, on ne le bénit pas forcément.
Non.
On est tous pareils.
Bien sûr.
Alors,
c'est vrai que c'est la terre de la soif et de la faim. C'est vrai.
Donc, l'être humain, lui, il ne peut marcher dans le désert que sur une distance de 10 km s'il ne boit pas et s'il fait jour. Hein, parce que la nuit, on peut marcher sans boire. Dans le désert, on peut marcher 40 km la nuit.
40 km.
40 km, mais 10 km seulement le jour.
On n'avance pas vite.
Non, 10 km sans eau, et après on s'arrête. Et j'allais dire, on risque de mourir. Hein? Alors, si on ne boit rien dans le désert, on va pouvoir survivre 48 heures au plus et on meurt. On meurt.
48 heures.
Et même si on boit 3 litres d'eau par jour et qu'on marche, c'est insuffisant. On ne pourra survivre qu'une semaine. Et après, on est fichu. La quantité nécessaire qu'on devrait boire dans le désert, si on marche et qu'on a une activité physique, c'est 9 litres d'eau par jour. 9 litres d'eau.
C'est pour ça que les chameaux sont adaptés au désert avec leur...
Oui, alors eux, en 10 minutes, ils vont boire 130 litres d'eau.
Ben c'est parce qu'ils
s'adaptent. En 10 minutes.
Ils sont adaptés. En 10 minutes.
En 10 minutes, 130 litres d'eau.
Étonnant. Hein,
oui, c'est étonnant. Et puis, ils sont capables d'ailleurs de se passer d'eau à cause de ça, à cause de la réserve. Ils sont capables de se passer d'eau pendant 20, 30, 40 jours. Et ils sont même capables de produire de l'eau. On en parlera peut-être grâce à une réaction entre l'hydrogène qu'ils peuvent fabriquer et l'oxygène de l'air.
Le créateur a vraiment bien fait les choses.
C'est magnifique. Alors, pour parler du besoin en eau de l'être humain, il nous faut savoir que la quantité de sueur qui est dégagée par notre corps en une heure, au travers, tenez-vous bien Chantal, de ces 3 millions de glandes sudoripares, c'est énorme, cette quantité de sueur donc, est de 1,5 litre environ. S'il fait 43 degrés à l'extérieur. 1,5 litre en une heure. Donc on comprend que dans le désert, il faut énormément boire. Énormément.
Déshydratation qui...
Bien sûr. Et sachons pour terminer sur ce sujet que si nous perdons, nous les êtres humains, 12% d'eau, nous allons donc mourir. Donc là, il faut faire très très attention. Chez les animaux, c'est environ 10% d'eau. S'ils perdent 10% d'eau, ils vont mourir. Et enfin, il nous faut savoir que l'eau de notre corps humain représente 60 à 70% de notre poids.
Donc l'eau est importante, même dans notre constitution.
Est très importante. Alors, dans le désert, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que dans le désert, il faut boire. Et si nous traversons un désert nous-mêmes, mais que nous restons bloqués, révoltés et dans l'amertume, nous cessons de nous alimenter, nous gardons le lit et la chambre et nous ne voulons plus rien savoir, nous allons mourir. Il nous faut boire. Boire quoi?
L'eau.
Boire de l'eau?
De l'eau celle de la Samaritaine, celle que le Christ a...
Au niveau spirituel,
c'est ça.
Oui,
l'eau Jésus. Que je... te donnerai.
Voilà, l'eau que je te donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La parole de Dieu dans la Bible est comparée à de l'eau. Alors, dans une période de désert, profitons-en pour lire la Bible, Profitons-en pour nous rapprocher de Dieu, pour prier. Alors certains diront, oui, mais j'arrive plus à prier.
Oui.
Parce que c'est trop dur. La douleur m'empêche de prier.
Alors, qu'est-ce que vous leur dites, pasteur?
Bien, si tu ne peux pas prier, sois reconnaissant tout de même à Dieu, chante un cantique, débrouille-toi quand même pour passer du temps où tu vas l'adorer. Si tu n'arrives pas à parler, à t'adresser à lui, passe du temps dans sa présence, passe du temps dans l'adoration.
Mmh.
Reste avec lui.
Voilà. Mmh.
Même si tu ne peux plus imaginer un dialogue entre toi et lui, parce que tu lui en veux peut-être trop d'avoir permis ça dans ta vie. Alors tais-toi, d'accord, mais reste près de Dieu.
Mmh. Ça, c'est important, c'est l'essentiel.
En sa présence. Et là, il va se passer quelque chose, même si tu ne le sens pas. Le Seigneur va agir. Mais ce n'est pas pour rien qu'on traverse le désert. C'est pour se nourrir d'une autre nourriture que celle que nous avions d'habitude. C'est-à-dire quoi? La télévision, le plaisir. Là, je pourrais continuer la liste, elle est impressionnante. Nous sommes quelquefois des toxicomanes de la télévision, du sexe et du plaisir. La religion de notre société, c'est le plaisir.
Mais oui.
Nous avons affaire, à l'heure actuelle, à un monde de drogués.
Ben oui, d'une façon ou d'une autre.
Nous sommes drogués au travail, nous sommes drogués au sport, c'est quand même le moins pire, j'allais dire. Nous sommes drogués au plaisir et nous, pendant ce temps-là, nous restons superficiels.
Ben oui.
Le plaisir, ce n'est pas le sens de la vie. Sens de la vie, c'est de trouver le bonheur. Or, le bonheur, ce n'est pas toujours vivre dans le plaisir, c'est quelquefois souffrir. Je souffre pour mon enfant, par exemple, et j'ai le bonheur de souffrir pour lui, parce que je sais qu'à cause de cette souffrance, il va pouvoir continuer à cheminer. Je souffre peut-être à mon travail, mais je reste en place à mon travail, parce qu'il me faut bien manger et avoir un salaire, et je préfère souffrir, mais avoir le bonheur de recevoir mon salaire à la fin du mois.
Donc il y a une sorte d'endurance, d'une situation,
oui.
tenir, comme
oui.
dans le désert,
oui.
Voilà, sans trop, donc une sorte d'économie dans le désert, de mouvement, pour intensifier une relation en profondeur.
Voilà, il faut intérioriser.
Des racines,
dans tous les cas.
Comme les plantes du désert.
Oui, parce qu'il y a des plantes qui n'ont pas des racines pivotantes dans le désert, mais des racines traçantes. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les racines pivotantes, ce sont des racines qui s'enfoncent très, très profondément dans le sol, à 2, 3, 5 mètres. Je dirais même que les arbres qui ont des racines pivotantes ont des racines aussi profondes que la hauteur de l'arbre à l'extérieur.
C'est souvent ça.
Ouais. Voilà, ça, c'est les arbres qui ont des racines pivotantes. Il y a aussi les arbres, ou du moins la végétation, qui a des racines traçantes. C'est-à-dire des racines qui sont à 2-3 cm au-dessous du sol, mais qui s'étendent
très large. Oui.
Très large. Alors, quelle est la fonction de ces racines traçantes? C'est de pouvoir, très rapidement, dès qu'il pleut, pouvoir recueillir de l'eau.
Absorber.
Absorber l'humidité, absorber plein de choses.
Rapidement.
Alors, le problème, c'est s'il y a une tempête, cette végétation, ces arbres à racines traçantes peuvent être renversés, balayés. Nous avons en nous des racines pivotantes et des racines traçantes.
Hein. Mmh.
On a les deux. Et je dirais qu'au désert, il nous faut certainement apprendre à alimenter les racines pivotantes, celles qui sont profondes en nous. Mmh. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Où est-ce que je vais après ma mort? Ben oui, parce que je ne connais pas le jour de ma mort. Mmh. Ben oui.
Donc toutes ces questions-là deviennent importantes.
Il va falloir y penser. Et quand on est en pleine activité, quand tout va bien, quand on a de l'argent, quand on a de l'affection, on ne cherche plus puisqu'on a.
On est comblé.
On est comblé, repu même.
Mmh.
Alors c'est bien, mais d'un autre côté, ça peut nous aveugler. Parce qu'un jour viendra, ça ne manquera pas, où nous repartirons. J'allais dire que nous naissons nus.
Et nous repartons.
Et nous repartons nus. Et quelqu'un disait avec humour, les linceuls n'ont pas de poche. Alors donc, ça, c'est à réfléchir. Je suis arrivé nu, je repartirai nu. Il y a donc quelque chose à rechercher qui est dans l'invisible,
Oui.
qui n'est pas de l'ordre du matériel, du tangible. Ça nécessite un choix.
Donc le choix, il y a un choix à
Il y a un
faire.
choix à faire.
Et est-ce que toute personne est en mesure de faire ce choix?
Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut arriver à comprendre ce qu'il y a derrière le désert, hein. Alors, je dirais que dans un premier temps, on est tous pareils, on se révolte, on en a marre, on rejette tout, et on passe peut-être même par des dépendances. Certains se mettent à boire, d'autres à se droguer, etc.
Il peut y avoir des régressions.
Il peut y avoir des régressions. Mais je pense qu'il est, oui, chacun peut un jour faire le choix de ne plus se révolter, de regarder les choses en face et de décider de s'approfondir.
Un grand merci, Pasteur Philippe Ozené. On va réfléchir à tous ces propos qui sont si importants lorsque nous traversons le désert, puisque c'est le thème ce soir, avec Dieu, mais avec Dieu, ton désert refleurit. On écoute tout de suite Patrick Richard, et puis nos auditeurs aussi nous rejoignent, bien sûr. Patrick Richard qui chante Dieu qui cherche l'homme. Et dans le désert, c'est le cas. Dieu
Oui,
cherche l'homme dans
c'est
le
vrai.
désert, particulièrement en tout
Particulièrement.
temps, mais dans le désert, c'est urgent
Oui.
de se laisser trouver par Dieu.
Radio Notre-Dame.
Dieu qui cherche l'homme, Dieu d'humilité, Dieu qui s'abandonne à notre liberté, fais naître en nos cœurs le désir de te chercher. Saurons-nous prendre la route au signe de l'étoile? Et nous rendra la parole où ton nom se dévoile. Nous irons au rendez-vous de la maison du pain, dans la foule innombrable de ceux qui ont faim. Dieu qui cherche l'homme, Dieu d'humilité, Dieu qui s'abandonne à notre liberté. Fais naître en nos cœurs le désir de te chercher. Saurons-nous être à l'écoute au temps de ton appel, accueillir en ta parole une bonne nouvelle. Nous viendrons au rendez-vous du regard échangé, à ton invitation du venez et voyez, Dieu qui cherche l'homme, Dieu d'humilité, Dieu qui s'abandonne à notre liberté, fais naître en nos cœurs le désir de te chercher. Nous tiendrons portes ouvertes en guettant ton retour. Nous sèmerons ta parole au vent de ton amour. Il n'est plus de rendez-vous qu'avec l'inattendu. Ils sont heureux ceux-là qui croient sans avoir vu. Dieu qui cherche l'homme, Dieu d'humilité, Dieu qui s'abandonne à notre liberté, fais naître en nos cœurs le désir de te chercher.
entrer dans le dialogue, appelez le 00 33 1 56 56 44 44 pour l'étranger.
Et pour la France, le 0892 68 80 30. Avec le pasteur Philippe Osney, ce soir, le thème « Avec Dieu, ton désert refleuri ». Alors les traversées de désert, eh bien, nous en connaissons tous. Et oui. Parfois, elles sont très, très rudes.
Hein. Oui, oui.
Et vous nous disiez aussi que les sociétés, en ce moment, traversent des... En changeant de regard, on parle de crise, mais c'est un désert sur le plan spirituel qui peut-être que pour que l'homme soit amené à chercher Dieu, peut-être.
C'est sûr, je pense qu'il y a tellement d'hommes qui se sont enrichis en cachette, qui ont triché, qui ont volé et qui se sont remplis les poches au détriment des pauvres, que la société est en train de se casser la figure. Et nous récoltons ce que nous avons semé. Le sens de cette crise économique, c'est quoi? C'est que désormais, il va nous falloir réfléchir pour assainir et purifier les choses. Et d'ailleurs, les chefs d'État le disent. Lorsqu'on apprend qu'on est en train de lutter contre les paradis fiscaux, la fraude fiscale, c'est pour quoi faire? Pour purifier, assainir au niveau financier ce qui ne va pas du tout. Alors, si les pays ne comprennent pas que c'est Dieu qui permet, c'est pas lui qui l'envoie, cette crise-là, c'est l'homme qui l'a suscitée.
Oh bah oui, ça c'est sûr.
Mais il permet que cette crise s'installe et fasse du mal.
Pour réfléchir.
Parce que Dieu veut rendre l'homme responsable de ses actes.
Bien sûr.
Il y en a qui ont tellement triché, des classes entières de population qui ont tellement triché, que maintenant, ce sont des pays entiers qui sont en train d'en souffrir les conséquences. Alors, il faut réfléchir. Il faut repartir à zéro. Et là, on peut dire que c'est une purification intense qui s'impose à moyen et long terme. Parce que si on ne veut pas comprendre, on va recommencer. On va faire semblant, puis on va recommencer ensuite.
On colmate, mais on ne va pas à l'essentiel.
Voilà. Et dans le désert, donc, l'important, c'est de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Le comprendre, pas seulement l'entendre.
Mmh, pas l'entendre, mais le comprendre.
Et passer à l'acte, ensuite.
Donc c'est ça la conversion, changer de...
Oui.
Se retourner dans son...
C'est ça.
Sa façon de vivre et de voir.
Ce changement de cap, changement de direction, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est primordial. On peut faire la sourde oreille. On peut être sourd dans son cœur et dans ses pensées. Et le désert va passer, mais il n'aura pas fait son œuvre en nous. Et c'est bien dommage.
Et oui.
D'où l'importance d'écouter et de s'ouvrir.
Merci, pasteur Philippe Osney.